Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui, aujourd'hui, dans ce dimanche, il nous a dit, nous a donné un message particulier. Saint Paul nous rappelle les 10 commandements et termine en disant que ces 10 commandements se résument par la charité. La charité qui consiste dans une bienveillance gratuite pour notre prochain. On ne peut dire que nous aimons notre prochain sans suivre les 10 commandements. Toutefois, la prière du dimanche, l'oraison de la messe, nous dit que cela est quasiment d'une difficulté telle de suivre la loi, même si les 10 commandements sont résumés par l'amour de Dieu et l'amour du prochain, que nous voulons de l'aide, l'aide de la grâce. Non seulement cela, mais l'Évangile, en fait, nous fait comprendre que c'est quasiment une traversée dangereuse que de traverser cette vie et d'essayer de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos parents quand nous avons connu nos parents, certains n'ont pas connu leurs parents, d'aimer leurs frères et sœurs, certains ont été enfants uniques, d'aimer leurs cousins, leurs familles, leur voisinage, leurs collègues de travail, et dans leur vieillesse, accepter d'être secouru dans la dépendance. Voilà un trajet de vie qui nous est présenté d'une manière de toujours plus dramatique, puisque actuellement, l'information, la vie humaine est présentée à la manière d'un journaliste qui veut intéresser et vendre non plus son papier, ni même ses propos à la télévision, puisque tout se lit sur Internet. Notre Seigneur, lui, nous donne un message étrange aujourd'hui en dormant dans cette barque de la vie, et ses apôtres sont inquiets que Dieu ne nous aide pas. Alors, est-ce que cette vie est si difficile? Et comment Dieu nous aide-t-il? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est absent? Tout d'abord, il est vrai que dans nos vies, nous avons des difficultés qui ne sont pas forcément des épreuves pointues, mais qui sont usantes. Nous avons tel ou tel défaut de caractère, de tempérament, et nous avons beau essayer de surmonter, de canaliser ce tempérament, nous sommes quelque peu déçus parce que nous souhaitons être parfaits. Non seulement nous souhaitons être en bonne santé et ne pas avoir de besoins matériels, ne pas être inquiet pour le lendemain, avoir un appartement ou une maison en location ou en propriété, avoir une santé correcte, mais nous souhaitons aussi être estimés. Nous souhaitons avoir une renommée qui nous permet de vivre paisiblement. Certains sont assez solitaires et finalement se moquent de ce que peuvent penser les autres. Mais ce n'est jamais tout à fait vrai, car celui-même qui vit très solitaire souhaite justement ne pas avoir à être bousculé, insulté, de ne pas avoir de difficultés de relation avec les autres, et c'est une des raisons pour laquelle il s'isole. Mais nous ne pouvons pas totalement être solitaires et partir dans la forêt pour vivre en ermite. Et si vous demandez à ceux qui vivent en ermitage ou dans des couvents ou des monastères, vous comprendrez que leur solitude est très relative, même en cellule. parce qu'on mange ensemble, on entretient le bâtiment ensemble, et il y a des récréations, comme on dit, où on parle ensemble. Et finalement, à parler 30 minutes par jour, ou une heure et demie par jour, suivant les règles monastiques, finalement, ça devient très long. Et nous qui n'avons pas de règles, et qui pouvons parler à tort et à travers, téléphoner aux uns, aux autres, répondre à tous les courriels possibles et imaginables, eh bien nous sommes parfois dans une relation plus pauvre que des moines ou des moniales. La vie de communauté étant d'une exigence de présence, de bonté. Alors, si cette exigence consiste à nous demander d'avoir un grand sourire en permanence, la tête un peu penchée, et d'être jamais trop agressif dans nos paroles, d'avoir des réactions toujours équilibrées et pleines de mesure, alors on se dit vraiment que Dieu devrait nous aider un peu plus. Mais cela, c'est pour nous-mêmes. Pensons maintenant à ce qui est le plus facile, à l'état du monde, de se dire que le péché surabonde, que les enfants sont mal éduqués, qu'ils n'ont plus le sens de l'autorité et de l'obéissance, qu'il n'y a plus d'effort, que l'on vit au cours de la journée avec toutes ses envies, et que le soir, nous arrivons à minuit, 1h, 2h du matin, à ne rien faire, à regarder ceci ou cela sur Internet. Chose un peu étrange pour des personnes de 75-85 ans, qui, elles, dorment plus paisiblement vers 22h. Voilà ce monde que nous allons qualifier de décadent, bien sûr, puisque les couples ont du mal à se former, ont du mal à s'aimer, ont du mal à rester ensemble, divorcent, avec peur de l'enfant, contraception, avortement, et face à la souffrance, l'euthanasie, enfin, toutes sortes de pensées qui nous font désespérer du futur. La réponse, c'est donc dans une présence de Dieu un peu particulière. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, cette maison qui a été construite pour rencontrer notre Seigneur présent, cette présence d'immensité qui est celle du Tout-Puissant, de l'ubiquité de Dieu. Nous marchons dans la rue, nous sommes dans notre chambre, Dieu nous voit, nous connaît nos pensées intimes, notre passé, notre présent, notre futur même. Même si nous sommes libres de nos choix futurs, Dieu les connaît déjà. Cela peut être désagréable. Et finalement, nous préférerions que Dieu soit en effet endormi ou lointain. Eh bien non. Dieu est très proche. Et jeudi prochain, nous allons clôturer ce temps particulier de Noël et de l'Épiphanie par la fête du 2 février. Et le vieillard Siméon, qui est un homme imprégné de la religion d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, il attend le Sauveur. Et l'Esprit-Saint lui a dit qu'il le verrait avant de mourir. Et l'Esprit-Saint lui dit que c'est cet enfant. Alors il voit ce couple, il voit que pour cette présentation au temple, Joseph a porté deux colombes, ce qui est l'offrande des familles modestes. On devrait apporter un mouton. Mais pour ceux qui sont modestes, ce sont deux colombes. Et il voit ce couple, et l'Esprit-Saint lui dit que cet enfant est le Messie. Mais non seulement il lui dit que c'est le Messie, mais il lui dit qu'il est la lumière des nations, et pas seulement la gloire d'Israël. Alors ceux qui nettoient cette église sont paniqués par cette fête, parce que vous allez tous avoir un cierge, et il va y avoir des gouttes de cierge un peu partout sur le parquet. Mais voyez-vous, cette lumière, elle est très importante, car les lumières dans l'obscurité, dans l'inquiétude de nos propres vies ou dans la vie du monde. Et Jésus se réveille, mais il ne dort pas, celui qui veille sur Israël. En effet, notre Seigneur ne dort jamais. Il est Dieu. Dans sa nature humaine, il est fatigué et il dort. Mais dans cette barque, le Christ, dans sa divinité, veille sur ses apôtres. Il veille sur l'Église qui est symbolisée par ce bateau. Il veille sur le monde. Et à tout moment, notre Seigneur veut le salut et le bonheur de chaque personne. Quelles que soient ses épreuves, qu'il lui envoie pourtant. Comme cette tempête, est-il utile de faire peur à ses disciples? Surtout une tempête de lac. Mais pour ceux qui ont été sur le lac Léman et qui auraient vu une tempête sur le lac Léman, eh bien c'est une tempête comme en pleine mer. Et le lac de Génézareth a des tempêtes impressionnantes avec des vagues de 5 mètres. Donc ils ont vraiment eu peur. Et pourquoi? Eh bien Dieu veut tirer le meilleur de nous-mêmes. Et il est vrai que le petit enfant Jésus, tout mignon et tout gentil, est le redoutable Tout-Puissant en même temps. Et qu'il nous met sur notre route, non pas des pièges, mais des épreuves, pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et lors de ces épreuves, nous avons l'impression d'être seuls, et pourtant il est là. Oh, je ne vais pas vous faire le coup de l'histoire de cet homme qui marche le long de la plage aux côtés de Jésus et qui, se retournant, voit un moment une seule trace au lieu de deux. Et il lui dit « Tu n'étais pas à côté de moi ». Et Jésus lui dit « Regarde ces traces, elles sont plus profondes, je te portais ». Et pourtant, voyez-vous, cette belle histoire inventée pour toucher vos cœurs est théologiquement parfaite. Notre Seigneur est toujours à vos côtés. Et ce n'est pas seulement en venant en communier ici que vous vous approchez de lui. Il vous donne cette grâce particulière qui passe par sa vie sur terre, son incarnation, sa mort et sa résurrection. Mais à tout moment, cette source de grâce est auprès de vous. Et la Vierge Marie, dans tout cela, elle garde tout cela dans son cœur immaculé. Et il a épargné sa maman? Il a épargné sa mère? Non. Le vieillard Siméon lui dit qu'un glaive transpercera son cœur. Et nous représentons le cœur immaculé de Marie avec un glaive. Tandis que le cœur sacré de Jésus est entouré d'épines avec le coup de lance. Mais pourtant, toutes ces épreuves nous permettent justement d'aimer en vérité, de ne pas avoir été sauvés sans que nous ayons coopéré librement à l'aide de Dieu. Jésus se réveille et il arrête le vent et la mer. Avez-vous peur de l'Apocalypse ? Avez-vous peur d'une météorite qui va venir punir la terre pour tous ses péchés, avortement, euthanasie des petits vieux dans les hôpitaux pour libérer des lits et puis bientôt pour les dépressifs? Vous avez 5% des décès en Belgique maintenant qui sont dus à l'euthanasie. Une jeune femme de 24 ans qui avait toujours été en dépression a convaincu les médecins et elle a été exécutée. Mais ces assassinats demandés, et non pas des suicides, puisque c'est quelqu'un d'autre qui vous tue, montrent cette faiblesse profonde, ce manque d'espérance. Et pourtant, voyez ce vieillard et la prophétesse Anne, qui elle aussi avait 84 ans, Ils sont dans la lumière. Ils sont dans l'espérance. Lui va mourir et il le dit. Maintenant, Seigneur, vous pouvez laisser votre serviteur aller dans la paix. Rien ne devrait nous faire peur, sauf une chose, notre propre péché. Le mal volontaire, cynique que nous pourrions faire. Nous avons parfois des péchés de faiblesse que nous regrettons. Certes, nous avons à les confesser, mais méfions-nous de la haine ou du cynisme. C'est cela le malheur. C'est cela qui devrait nous rendre tristes. Tandis que tout le mal qui peut nous arriver, extérieur, que ça soit même une maladie, un mal corporel, mais aussi des insultes ou du mépris de la part des autres, une déconsidération, le chômage, de pas réussir selon les critères du monde. Mais si vous faites de votre mieux, et si vous ne péchez pas, alors ne soyons pas tristes. Notre Seigneur, lui, nous promet son aide et la récompense. Que Notre-Dame de Fatima, qui, elle, demande que le plus grand nombre d'âmes se réveillent et se lèvent, puisse nous accompagner dans cette année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.